L'actualité européenne ce matin et cette semaine avec Angélique Bouin. Bonjour Angélique.
Bonjour.
Envoyée spéciale permanente à Bruxelles. Face à la Russie et la menace d'une invasion de l'Ukraine, les Européens ne cessent de menacer Vladimir Poutine et son régime de nouvelles sanctions. Mais alors la question ce matin, est-ce que ces sanctions, ces éventuelles sanctions sont bien efficaces? C'est la question ce matin.
Ah oui, ils ne cessent de le répéter. Les Européens sont prêts à répondre par de nouvelles sanctions économiques et financières qualifiées de massives à une éventuelle intervention de Moscou en Ukraine. Des options sont sur la table, elles sont préparées en ce moment par la Commission européenne. Évidemment, il n'est pas question de les révéler, car abattre les cartes, cela permettrait à Poutine de s'organiser pour les contourner. Mais ces menaces de nouvelles sanctions sont-elles utiles? Depuis plus de 6 ans, en réaction à l'annexion de la Crimée, à l'ingérence russe déjà en Ukraine, à l'emprisonnement de l'opposant Navalny, les mesures prises dans le secteur bancaire, pétrolier, industriel n'ont pas semblé freiner Vladimir Poutine. Et pourtant, elles restent, malgré leurs limites, indispensables, estime Cyril Brett. Il est professeur à Sciences Po et chercheur associé à l'Institut Delors.
L'Union européenne, à sa mesure, avec les atouts dont elle dispose, principalement son poids économique, son commerce, réussit à imposer un rapport de force dans le domaine économique et dans le domaine financier à la Russie. Et cette politique de sanctions a produit des effets qui sont aussi indubitables. Ils sont limités. Indubitables, car la crise économique, la récession économique dans laquelle la Russie s'est trouvée en 2015 et 2016, a des facteurs exogènes, la baisse bien sûr des cours des hydrocarbures sur les marchés mondiaux, mais également l'absence de commerce, la réduction du commerce avec l'Union européenne.
Les sanctions économiques ont donc de l'effet, tout comme celles qui visent les individus, explique aussi Cyril Brett. Quand les avoirs financiers de quelques 180 dignitaires russes sont gelés, ou bien qu'ils ne peuvent plus venir en Europe, eh bien cela contribue, dit-il, à maintenir le rapport de force dans le temps.
Quand les citoyens russes essayent de placer leurs actifs, veulent se faire soigner, ou ont besoin d'envoyer leurs enfants se faire éduquer, ils vont buter sur cet obstacle-là, et c'est là où ça deviendra sensible, parce que c'est là où les faiblesses du régime russe actuel se font sentir, l'incapacité à garantir ses biens fondamentaux, la protection de la propriété, l'éducation. Donc c'est plutôt de ce côté-là que je chercherai dans le long terme.
Une arme dont l'effet le plus tangible, explique-t-il également, est à chercher non pas à Moscou mais à Bruxelles, prise de façon très régulière à l'unanimité des 27 États membres. Les sanctions envoient en fait un signal ferme d'unité à un Vladimir Poutine qui ne cesse d'essayer de les diviser. Cette politique de sanctions constitue donc un ciment à l'unité des Européens et puis ça les a poussés à réfléchir collectivement à leur positionnement dans le monde. Ils planchent d'ailleurs en ce moment même sur la boussole stratégique de l'Europe, le futur livre blanc de l'UE, sur les enjeux de sécurité européens et les moyens d'y répondre.
L'actualité européenne, Angélique, concerne aussi la Pologne et la Hongrie. Ces deux pays seront-ils pénalisés financièrement pour leur dérive en matière d'état de droit ?
On en aura une indication le 16 février prochain, vient d'indiquer la Cour de justice de l'Union européenne, dont la décision est très attendue. Elle doit se prononcer sur le recours de ces deux pays contre le mécanisme qui liera à l'avenir le versement des fonds européens au respect de certaines règles d'état de droit. Entrée en vigueur il y a un an, cet outil n'a pas encore été activé par la Commission. Elle s'était engagée à attendre la décision de cette Cour.
Allez, on termine avec une étude européenne qui détaille les effets du Covid sur la qualité de l'air.
Plus de 800 décès auraient été évités lors du premier confinement, et cela grâce à une amélioration de la qualité de l'air qu'on a respiré en 2020, estime le service Copernicus pour la surveillance de l'atmosphère, en évaluant l'association entre les mesures gouvernementales, la diminution de certains polluants et la mortalité à court terme de février à juillet 2020 dans 47 villes. Cette étude a conclu que les restrictions avaient limité l'impact de la pollution. Paris, Londres, Barcelone et Milan font partie des villes avec le plus grand nombre de décès évités.